enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
J'aimerais qu'on puisse regarder ensemble en ce message de début de nouvelle série, série de début d'année 2006, à Hébreux chapitre 11, le chapitre de la foi. Hébreux chapitre 11. Et nous débutons ce matin une série pour les prochaines semaines intitulée « Seigneur, augmente notre foi ». Je crois que ça va être une des séries les plus importantes que je vais avoir apportées ici à l'Église Nouvelle Vie. On va regarder ensemble à Hébreux chapitre 11. Une fois que vous l'avez trouvé, vous pouvez regarder ici un moment. Marquez mes paroles. Je crois que l'année 2006, j'ai la conviction et l'assurance que l'année 2006, qu'en 2006, nous allons établir, nous allons bâtir, nous allons construire. Qu'en 2006, nous allons voir Dieu augmenter notre foi. Combien sont prêts pour cette œuvre surnaturelle du Saint-Esprit? Nous allons débuter demain, pour tous ceux qui veulent se joindre à nous, un 21 jours de jeûne et de prière. J'aimerais vous défier à prendre une journée parmi, au milieu de ce 21 jours, qu'il y aurait une journée, peut-être certains en prendront deux ou trois. Si vous faites des jeûnes prolongés, il faut que vous le fassiez avec toute la, en connaissance de cause, avec l'accord de votre médecin, si vous prenez des médicaments, toutes ces choses-là. La majorité d'entre vous pouvez faire ce pas de dire, je vais prendre une journée, je vais remplacer les repas peut-être par des temps de lecture, des temps de prière. Il va y avoir, prenez 5 minutes pour lire le bulletin, une multitude de réunions de prière pendant ce 21 jours. Demain, l'équipe pastorale, nous partons ensemble, comme à chaque année en début d'année, vers un lieu à part sur le bord du fleuve pour quelques jours. Et de dimanche en dimanche, dans les prochaines 3 semaines, nous allons être dans le 21 jours du 16 janvier au 6 février. Et nous le faisons parce que nous désirons être augmentés par le Seigneur, voir notre foi être élargie. Nous prions, nous jeûnons, nous cherchons la face de Dieu. Certains d'entre nous, plusieurs des leaders font des 3 jours, 5 jours, 7 jours. J'ai ressenti du Seigneur d'avoir cette direction de Dieu pour un 21 jours de jeûne, pour plus du Seigneur, être augmenté. Le mot qui brûle dans mon cœur, c'est fou. Il faut que nous soyons augmentés, que nous soyons élargis spirituellement, augmentés dans notre impact, en tant que croyants. Dans ma foi, dans ma confiance, dans mon zèle, dans ma sensibilité à Dieu, dans ma capacité de pardonner, dans ma générosité, dans mon don de moi-même. Et en même temps, pendant ces 21 jours, tous les messages de la série vont être sur Internet. Et comme à chaque début d'année, on a commencé il y a 3 ans, et c'est vraiment touchant, c'est saisissant. Nous faisons pendant ces 21 jours des réunions de prière et une grande réunion de prière ici à l'Église Nouvelle Vie. Mais nous vivons aussi ce qu'on pourrait appeler la plus grande réunion de prière francophone au monde à travers l'Internet. Nous avons des milliers de personnes. Au mois de décembre, notre serveur a même craqué, je ne sais pas c'est quoi le terme. On a dû aller vers un accès plus large parce qu'il y avait des milliers de personnes qui venaient downloader, qui venaient écouter les messages. Et là, en ce début d'année, on a déjà plein de gens. Si vous allez sur le site de l'Église Nouvelle Vie, vous allez avoir tous les messages de la série, vous allez avoir les plans de prière. Et il y a des milliers de chrétiens à travers la francophonie qui prient avec nous, qui prennent cette série-là. Et c'est assez saisissant. Bon, la plupart d'entre nous avons une certaine compréhension du pouvoir, de la capacité de l'Internet. Je vous avoue candidement que je suis le moindre de vous tous. Je suis un des derniers dinosaures de la technologie, ce que scientifiquement on appelle un techno-tweet. Mais je suis entouré de gens très, très compétents. Et lorsqu'on reçoit les emails des gens qui disent « on est avec vous, on s'engage », des églises en Afrique, des églises, bon, juste dans les dernières semaines, des 4 coins du Québec, de France, de Suisse, de Belgique, Haïti, Tahiti, Guadeloupe, Martinique, Île-de-la-Réunion, la Corse, l'île de Corse, 10 pays africains, l'Australie, Israël. J'ai reçu ce email d'Angleterre qui disait « je n'ai jamais été d'accord avec le pasteur Claude ». C'est toujours le fun de recevoir un email comme ça en commençant. Tu sais que ça va être un bon email. Je n'ai jamais été d'accord avec le pasteur Claude lorsqu'il dit que l'Église Nouvelle Vie compte 3000 membres. Moi, je dis notre Église Nouvelle Vie compte plus de membres que cela parce que moi, par exemple, je suis en Angleterre, mais Nouvelle Vie, c'est mon Église. La preuve, c'est que je commence mes 21 jours demain avec mes frères et mes sœurs du Canada. Je me nourris chaque jour des messages de l'Église Nouvelle Vie. Et croyez-moi, toute ma vie est bouleversée, je ne suis plus le même. Nous n'avons pas d'église présentement ici en Angleterre, mais je suis à la maison pour l'instant, priant et jeûnant avec Nouvelle Vie. Vous êtes une bénédiction pour moi et pour ma famille. J'ai reçu un autre email saisissant cette semaine d'un un chrétien qui est sur un bateau pétrolier dans le milieu de l'océan. Et il écoute les messages de l'Église Nouvelle Vie et il dit, « En ce moment, je suis fortement béni par le Seigneur à travers vos messages. En ce moment, je vous écris, je suis en pleine haute mer, travaillant dans une société pétrolière, écoutant le message, Seigneur, augmente notre foi. Je voudrais bien vous accompagner dans le jeûne, mais seulement mon travail ne me permet pas. Que Dieu m'aide à venir vous visiter un jour au Québec. Je suis de nationalité angolaise, mais je suis sur un bateau pétrolier en ce moment et je suis un chrétien qui remercie le Seigneur pour l'Église Nouvelle Vie. Sur terre, sur mer ou quel que soit le continent, on va prier ensemble, Seigneur, augmente notre foi. Vous dire amen? On va faire quelque chose ce matin. Ce message-ci va être sur Internet dans quelques jours et toute la francophonie va l'écouter. Alors, j'aimerais qu'on fasse 1, 2, 3 et que tous ensemble, le plus fort vous pouviez, vous disiez, Seigneur, augmente notre foi. Et on va le dire et toute la francophonie va l'entendre. Êtes-vous prêts? 1, 2, 3... Et j'aimerais que vous puissiez applaudir pour la francophonie, tout ce que Dieu peut faire. Saluez la francophonie un moment. Ici, à Longueuil, il y a, dans cette série « Augmente notre foi », le désir de Dieu pour que votre vie soit transformée en 2006. Je veux que vous sachiez, comme membre de l'Église Nouvelle Vie ou personne qui visite ou qui fréquente ou qui vient se joindre à l'Église Nouvelle Vie, je veux que vous sachiez quel est mon engagement, comme c'est moi qui vais apporter cette série de messages. En ce début d'année 2006, je veux prendre un engagement avec vous. Je veux faire une alliance avec vous. Comme votre pasteur, je veux m'engager à jeûner et à prier pour vous le 21 jours en ce début d'année. Je veux vous encourager à nous envoyer par email si vous avez des requêtes particulières. Toute l'équipe pastorale prie avec vous. Toute l'équipe pastorale est disponible et est là à chaque jour pour vous servir. Tous les soins pastoraux sont là pour votre counseling, relation d'aide, prière, aide familiale. Mais au-delà de cela, ce 21 jours est aussi pour moi un moment de jeûner et de prier pour vous, de prier pour votre guérison, de prier pour votre mariage, votre couple, vos enfants, prier pour des rétrogrades. Je veux prendre l'engagement de me préparer passionnément pour chaque message, pour prier Dieu dans ce début d'année pour vous, que le message porte un fruit en vous. Je vais proclamer, c'est mon engagement, proclamer, enseigner avec toute la passion de mon cœur pour vous en ce début d'année. Je voudrais vous défier à ne pas manquer de messages les prochaines semaines et à être conduit du Seigneur, permettre au Seigneur peut-être de mettre quelqu'un sur votre cœur que vous pourriez inviter. Quelqu'un qui s'est éloigné de l'Église, quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, quelqu'un de votre entourage que vous allez, que je veux vous défier à être utilisé de Dieu pour que eux aussi puissent venir vivre ce début d'année miraculeux avec nous. Je vais prier pour vous dans les réunions. Il va y avoir plusieurs réunions. Ce soir, ça commence, mais plusieurs dimanches soirs, dès en janvier et février, d'une façon accentuée, où toute une équipe de prière, on va être là pour prier pour vous imposer les mains, pour croire que vous allez être remplis de l'Esprit de Dieu, que vous allez être touchés par Dieu, que vous allez être délivrés par Dieu. Dans le jeûne et la prière, nous croyons qu'il n'y a pas de limite aux chaînes que Dieu peut briser, pas de limite à ce que Dieu peut reconstruire, pas de limite à ce que Dieu peut guérir par la puissance de son esprit. Que ceux qui croient en cette puissance du Saint-Esprit crient amen dans ce lieu ce matin. Je vais prendre cet engagement de vous donner, tout donner pour une percée miraculeuse de Dieu dans votre vie. De puiser dans plus de 21 ans de ministère pour une année 2006 marquante pour vous et votre famille. Certains des messages, certains des principes et messages que je vais apporter dans les prochaines semaines ont été ce que Dieu a utilisé, des révélations avec lesquelles Dieu a bouleversé ma vie, m'a équipé, m'a fortifié, m'a sorti d'où j'étais pour m'amener où je suis aujourd'hui. Et je crois que si vous ouvrez vos cœurs, ces messages vont avoir cet impact en vous aussi. Nous avons aussi à cœur de faire quelque chose de particulier. Nous avons ce défi de tout le monde ici, qu'on vient à l'église le dimanche et par la grâce de Dieu, Dieu nous parle et on reçoit quelque chose, on est touché. Mais par la suite, le tourbillon de la vie nous prend. Par la suite, c'est tout le reste qui vient prendre le dessus. On peut se retrouver 2 heures après la réunion, ou le lendemain matin, ou le mardi, mercredi, à peine se souvenir ce qui est arrivé dimanche dernier. Et je veux tellement que cette année, pendant des mois en 2005, cette préparation dans mon cœur, Seigneur, je voudrais tellement que le début d'année soit marquant, que ça fasse une vraie différence, qu'il y ait des racines plus profondes qui prennent place dans la vie des gens. Et une des choses que nous allons faire en ce début d'année, la série s'intitule « Seigneur, augmente notre foi ». Et en 2005, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Seigneur, augmente notre foi ». Il est à sa 2e édition et c'est pendant le jeûne de 40 jours que je l'ai écrit. Et ce qu'on va faire pour les prochaines 7 semaines au moins, je vais vous défier à prendre ce livre, à l'acheter à l'arrière. On a coupé le prix de 25% pour que le plus grand nombre puisse le prendre, un investissement de 20$ pour toute l'année. Et que ce qu'on va faire, c'est que vous, tous ceux qui veulent, que vous puissiez prendre le livre et lire le premier chapitre cette semaine. Et de semaine en semaine, vous allez lire un chapitre et je vais arriver le dimanche et apporter la parole sur ce que vous lisez. Et par la suite, lorsque vous allez avoir reçu le message, vous allez pouvoir continuer à lire. Et je pense que Dieu va utiliser ce livre-là et va utiliser cette série-là pour commencer l'année d'une façon dynamique, d'une façon spirituelle plus grande que n'importe quoi qu'on a vécu ensemble dans les dernières années. Je vous encourage à prendre le livre pour vous-même. Pour, c'est un investissement spirituel. 20$ pour toute l'année 2006, ben, je vais l'avoir, puis je vais pouvoir entrer dans le message comme jamais. Pour peut-être le donner en cadeau à votre conjoint, vos jeunes, vos enfants. J'avais à cœur que vous puissiez peut-être, certains auraient à cœur de dire, je vais en acheter, puis je vais le donner à un rétrograde ou à quelqu'un qui passe un moment difficile spirituellement, à un ami pasteur ou à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. C'est une de mes grandes joies de vous recevoir tellement d'emails et de gens qui ont donné ce livre-là à un inconverti. Ça a préparé le cœur de la personne, une présentation de Dieu et de l'Église dans cette série de messages qui, je crois, touche le cœur de la majorité des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous voulons que Seigneur, nous croyons que Seigneur augmente notre foi. C'est un message nécessaire et prophétique pour nous en tant qu'Église. Il y a un appel et une destinée sur chacun de vous en tant qu'individu, mais si Dieu vous a conduit à vous joindre à l'Église Nouvelle Vie, nous croyons que nous sommes appelés ensemble à accomplir une destinée prophétique. Et à travers l'Ancien Testament, il y a souvent cette phrase qui revient dans des moments particuliers où, lorsque j'avais ce mot « augmenter » dans mon esprit, « Seigneur, augmente notre foi. Seigneur, augmente notre foi. » J'ai été attiré par ces moments dans l'Ancien Testament où le récit narratif nous dit, comme dans 1 Roi 22 par exemple, le combat augmenta. Le combat augmenta. Dans certaines versions, ça dit, le combat devint acharné en ce jour-là. Et la raison pour laquelle nous croyons qu'il est important et nécessaire et absolument question de vie ou de mort pour l'Église Nouvelle Vie de grandir dans sa foi, pour le leadership de grandir, d'augmenter, pour vous d'augmenter, c'est que nous croyons être dans une période de « en ce jour-là ». Lorsque nous regardons l'année 2005, l'année 2004 et l'année 2005 en particulier, nous voyons toutes sortes de choses qui augmentent. Nous voyons la tentation augmenter. Nous voyons des chutes morales augmenter. Nous voyons des pressions et des complots de l'ennemi augmenter. Nous voyons la sévérité du combat augmenter. Mais nous croyons qu'alors que le combat devient acharné, que tout cela augmente, qu'alors que le peuple de Dieu répond à l'appel de l'Esprit et dit « Seigneur, augmente notre foi, que c'est la grâce de Dieu qui va augmenter en nous. La présence de Dieu qui doit augmenter en nous. La confiance en Dieu qui doit augmenter en nous. Je discerne ce qui est. Il y a des enjeux en 2006. Il y a des événements qui vont prendre place. Il y a un établissement qui va prendre place. Il y a une destinée prophétique. On est si proche de s'emparer. Et l'ennemi voudrait essayer, a voulu ou voudrait essayer de nous distraire. Mais je veux annoncer à l'enfer et au ciel que nous allons augmenter dans notre foi en 2006 et que ceux qui le ressentent et le veulent crient « Amen » dans ce lieu ce matin. En tant qu'Église Nouvelle Vie, avec toute une série d'églises et toutes sortes de gens qui regardent à nous et qui se tournent vers nous, on passe dans les dernières semaines, je passe tellement d'heures de rencontres, c'est une grande joie, à rencontrer un pasteur après un autre. Je voudrais vous dire qu'augmente notre foi, c'est un message prophétique pour l'Église Nouvelle Vie. Il y a ce texte de Zacharie que j'aimerais vous partager, que je veux vous demander de garder à quelque part, parce que c'est ce que Dieu nous appelle à faire en tant qu'Église. À augmenter, à bâtir, à établir. Zacharie dit, « De mon peuple sortira une fondation solide, une pierre angulaire. De lui sortira l'arc de la guerre. De lui, les chefs se rassembleront. Et je vous prophétise ce matin que l'Église Nouvelle Vie est appelée, que nous sommes appelés ensemble à être une pierre, à être une fondation, à être quelque chose de solide, et que de ce lieu, il y a un arc de guerre qui émerge contre les ténèbres, contre tout ce qui est mort, tout ce qui est contre le royaume de Dieu, et que des chefs spirituels se rassemblent, et ils deviendront comme des héros, foulant le sentier de la guerre, la boue des rues. Pas une église recroquevillée sur elle-même, avec les mains propres, perdues entre eux dans la louange à se faire du bien. Une église qui se roule les manches, qui marche dans les boues de la rue, qui marche sur les sentiers du Québec avec une onction de délivrance et de libération pour aller chercher des gens là où ils sont. Quelqu'un devrait dire amen. Dis à quelqu'un près de vous, salis-toi les pieds spirituellement. Dis ça à quelqu'un près de vous. Get in the fight. Je rendrai héroïque ma maison. Je les appellerai pour les rassembler. Et lorsque j'étudiais ce texte-là, j'étais surpris parce qu'il y a même une version qui ça semble presque cavalier pour nous en 2006. Le texte exact dans l'hébreu dit « Je les sifflerai pour les rassembler ». Alors je me suis mis à étudier, Seigneur, qu'est-ce que ça représentait à l'époque. Et à l'époque, c'était dans les moments lorsque la voix de Dieu appelait les leaders, puis qu'il y avait un ennemi qui se pointait, où il y avait un pays à aller conquérir. C'était une des façons de communication. Les leaders, c'était une des manières que, quoi que ce soit ce que tu faisais, il n'y avait pas de système de son, pas d'Internet, rien de tout ça. Il n'y avait pas de micro, il n'y avait pas d'eau-parleur, il n'y avait pas de télé, il n'y avait rien. Alors, il y avait ces moments où les leaders, il y avait un sifflement qui commençait à retentir. Et quoi que ce soit ce que tu étais en train de faire, quel que soit ce que tu faisais, lorsque tu entendais le sifflement, ça voulait dire, oh, c'est le temps de se rassembler. Laisse ce que tu fais et prépare-toi, on s'en va à la guerre ensemble. À ce moment-ci du message, ça serait super si je pourrais faire « Je n'ai pas ce don. » Si je fais ça, il va y avoir un déversement dans les premières rangées, mais ça sera pas, c'est une seule affaire qui sort, mais pas de son. Alors, j'aimerais pendant un instant, pas pour le reste de votre vie, pas tous les dimanches, pas toutes les matins, mais pendant une seconde, que vous avez déjà entendu que celui qui a une oreille entende. Eh bien, ce matin, que celui qui sache siffler, siffle. 1, 2, 3. OK. Et que vous êtes talentueux, c'est extraordinaire. Il y a 8 personnes qui se sont réveillées et c'était absolument... Il y a des gens qui nous écoutaient par Internet qui se sont réveillés là où ils étaient. C'est absolument l'intention de Dieu. C'est un message. Le Seigneur dit, je veux rassembler mon peuple, je veux les rendre héroïques, je veux les rassembler. Et ce sifflement-là, lorsque ça retentissait dans le camp, comme on venait de l'entendre, je suis presque tenté d'en demander un dernier, juste pour être sûr. Lorsque vous entendez, lorsque les guerriers entendaient ce sifflement, c'était un appel pour l'Église. Laisse qu'est-ce que tu fais, laisse le club vidéo, laisse les DVD, laisse l'Internet, laisse le Journal de Montréal, laisse le Canadien, Julien, Guéni, Carbonneau, laisse-les là un instant et réponds à l'appel de la prière et de l'Esprit de Dieu. Viens-t'en! Alléluia! C'est un appel pour l'Église, mais c'est aussi un avertissement pour l'ennemi. Que dans ce sifflement, l'ennemi entende qu'il y a un peuple qui se réveille et se lève et dit « Seigneur, augmente notre foi ». Zacharie continue en disant « Je les libérerai, je les multiplierai, je les augmenterai. Et leur espace ne leur suffira plus. » Je vous déclare prophétiquement qu'en 2006, l'espace de l'Église Nouvelle Vie ne nous suffit plus. Qu'en 2006, nous allons faire de l'espace. Qu'en 2006, déjà, Dieu dit que l'espace, c'est pas juste une question de pieds carrés, de chaises, de bureaux, de classe. L'espace, c'est ce que tu as connu. La portion de Dieu que tu as connu jusqu'à maintenant. La version de Dieu que tu as connu jusqu'à maintenant. L'endroit où tu habitais spirituellement n'est plus assez grand. J'ai quelque chose de plus puissant pour toi à vivre. Je veux t'augmenter en 2006. Leur espace, je n'ai pas personne à côté de la chaise. Mais donnez un coup de coude pentecôtiste ou baptiste ou ce que vous voulez à quelqu'un près de vous et dites-lui, fais-moi de la place. C'est ça. Ah oui, il y en a juste 4 qui l'ont fait. Fais-moi de la place. Dieu a un nouvel espace pour moi. Je les libérerai, je les multiplierai. Leur espace ne suffira plus. J'en ferai des héros, dit le Seigneur. Ils porteront mon nom à leur nation. Je vous déclare, et on va le faire avec consultation, avec prière, avec recherche de Dieu, je vous déclare qu'en 2006, nous allons établir un mouvement pour des églises, pour des leaders qui va toucher le Québec et la francophonie. Je vous déclare que ce verset de Zacharie, chapitre 12, brûle dans nos esprits. C'est une déclaration prophétique pour nous. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un feu ardent, comme une torche enflammée parmi des gerbes. C'est un portrait d'individus qui deviennent embrasés par Dieu. Des leaders spirituels, un à un, qui sont embrasés par Dieu. En janvier, nous jeûnons tout le monde ensemble. Et en février, nous avons fait une convocation pour des pasteurs. Et un grand nombre déjà se sont inscrits et vont venir jeûner. Et le portrait prophétique, jeûner, prier, c'est des leaders qui deviennent des torches de feu eux-mêmes. Pourquoi 21 jours de prière? Je veux aller dans la présence de Dieu comme si j'étais jamais allé. Et être embrasé par Dieu et sortir de là et enflammer chaque personne que nous allons toucher, communiquer. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David, comme la maison de David deviendra comme Dieu. Le Québec est considéré et vu comme le faible parmi eux. Parce que les gens racontent, les réveils des derniers 30 ans, ils n'écrivent pas le Québec. Parce que les gens racontent les pays du monde qui sont les grandes forces missionnaires. Ils ne racontent pas l'histoire du Québec. Lorsqu'ils nomment le lieu où les églises grandissent et se multiplient, ils ne nomment pas la province de Québec. Et quelle promesse de Dieu qui dit, s'il y a assez d'un peuple qui se lève pour dire, Seigneur, augmente notre foi, moi je vais m'appeler des héros du milieu d'eux. Moi, je vais m'appeler des héros du milieu d'eux. J'ai sifflé, je les ai appelés, je les ai rassemblés. Et là, je vais les amener. Ils vont devenir des gerbes embrasées. Et celui qui était appelé le faible, cette maison-là qui semblait si faible, l'Église chrétienne francophone, va devenir comme Dieu. Et ça m'a touché. Parce que je crois que notre objectif ne devrait jamais être d'être comme une autre Église. On ne veut pas être comme l'Église d'Amérique latine. On ne veut pas être comme l'Église américaine. On ne veut pas être comme l'Église d'un autre pays. On veut être comme Dieu. L'Église que Dieu veut que nous soyons en 2006 dans la francophonie. Quelqu'un devrait dire Amen. Quelqu'un devrait dire Amen. La maison deviendra comme Dieu. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Bon, on va l'étudier ensemble dans les prochaines semaines. Supplication aussi qui parle de lier et de délier. Un esprit de grâce et de prière et de supplication. Et ce message-là n'est pas seulement un message prophétique pour nous en tant qu'Église, mais c'est un message prophétique pour chaque enfant de Dieu. Pas seulement une prophétie qu'en 2006, nous allons mettre les fondations pour l'établissement d'un mouvement francophone pour la francophonie. C'est pas seulement une prophétie. Ça doit être une prière dans la vie de chaque personne. Bien au-delà, pas seulement au-delà, mais pas seulement pour Québec, francophonie, toucher le monde, toucher le Québec. Mais Dieu, un Dieu personnel et puissant, a ses yeux rivés sur toi ce matin. Il dit, ce message-là, il est pour toi, à ta place, là où tu es. Toi, quel que soit ton arrière-plan, un message personnel de Dieu. Seigneur, non seulement tu vas augmenter notre foi en tant qu'Église, puis on va établir un mouvement pour la francophonie. Non, non. Seigneur, tu vas, en 2006, augmenter ma foi à moi, ma confiance en Dieu. Je veux être une femme différente à la fin de l'année, être un homme différent à la fin de l'année. Je veux être quelqu'un qui a augmenté en Dieu, élargi en Dieu. Job 8, mais toi, si tu recherches Dieu, toi ce matin, mais toi, si tu recherches Dieu, si tu implores la grâce du Tout-Puissant, si tu es sans reproche, ça ne veut pas dire parfait, ça veut simplement dire sans secret, droit, je reconnais mon besoin devant Dieu. Si tu es sans hypocrisie, sans secret et droit, il te promet qu'il veillera sur toi. Il augmentera, dites à voix haute, augmentera. Il augmentera ta demeure. Il protégera ce que tu es devant lui. Ta première condition, ce que tu as été, semblera bien peu de choses. Car il t'augmentera, il t'élèvera. Et ça, c'était à plusieurs volets. Peut-être que ce que vous avez été a été douleur, a été blessure, a été échec, a été péché. Et la promesse de Dieu, c'est que je veux t'augmenter. Je désire, en 2006, t'augmenter. Que ce que tu as été, avec tout son poids de douleur, de blessure, de souvenirs, de traumatisme peut-être, de poids qui est d'aveuglement maintenant à quoi que ce soit d'autre, y a-t-il quelque chose d'autre qui est possible pour moi? Dieu dit, quel que soit ce que tu as connu, ce que tu as été, peut te sembler bien peu de choses lorsque l'œuvre de mon esprit commence à prendre place en toi. Mais je veux dire aussi ceci, pour ceux qui ont eu de bonnes années, pour ceux qui trouvent que ça va assez bien, pour ceux qui sont assez, ce message est pour vous ce matin, mais aussi pour des gens qui vont l'écouter par Internet, des églises, des mouvements d'église qui se réfugient dans la gloire ou la bénédiction ou la relation avec Dieu qu'ils avaient dans leur passé. Ce que nous avons été, qu'il soit douloureux ou qu'il soit glorieux, ce que nous avons été hier était hier. Maintenant, nous sommes ici aujourd'hui et j'ai une soif dans mon cœur d'être augmenté par la grâce de Dieu. Je n'ai aucun désir de juste continuer sur l'élan peut-être que j'ai déjà eu. Je veux m'emparer de quelque chose de frais et quelque chose de vrai. Ce n'est pas seulement une prophétie pour l'Église, c'est une promesse pour toi individuellement. Il dit, ta première condition semblera bien peu de choses, car il t'augmentera, il t'élèvera. Et celle qui viendra par la suite sera bien plus grande. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment le communiquer. Je demande au Seigneur dans les prochaines semaines de me donner cette parole, cette capacité de communiquer cette révélation. Je ne sais pas comment vous communiquer à quel point c'est absolument vie ou mort, absolument essentiel que vous puissiez avoir comme cri et poursuite de votre âme en 2006. Seigneur, augmente ma foi. Je ne peux pas demeurer dans l'état dans lequel je suis là. Je ne peux pas me contenter de ce que j'ai là. Je ne peux pas me contenter de ce que j'ai en ce moment. J'aimerais, on va le regarder ensemble dans les prochaines semaines, mais qu'il y ait un feu dans votre cœur de dire, je refuse le statu quo dans ma foi. Je refuse la stagnation. Je refuse la sclérose dans ma foi. Je veux voir ma foi en Dieu, ma confiance en lui, être approfondie, élargie et enflammée et agrandie en 2006. Parce que sans la foi, il est impossible de lui plaire. Sans la foi, nous devenons petits. Nous perdons peu à peu. Nous ne pouvons pas posséder. Sans la foi, et ça c'est ce soir, sans la foi, il n'y a pas de puissance. Sans la foi, nous sommes prisonniers. L'Écriture nous enseigne, sans la foi, il n'y a pas de percée. Sans la foi, il n'y a pas de prospérité. Sans la foi, il n'y a pas de postérité. Tu ne peux pas communiquer. Laisser un héritage ou un trésor à d'autres sans la foi. Alors ensemble, nous venons ce matin, nous disons, Seigneur, augmente ma foi, parce que sans la foi, il est impossible de lui plaire. Dans Hébreux chapitre 11, le chapitre de la foi, les versets 1, 2, 5 et 6, nous lisons, « Or la foi, les textes sont à l'écran pour ceux qui n'ont pas leur Bible, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Il n'y a pas de témoignage possible, à moins que ce soit renouvelé dans une foi brûlante. C'est par la foi qu'Énoch fut enlevé parce qu'il ne vit pas la mort. Il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Car sans la foi, il est impossible de lui plaire ou de lui être agréable. Plus les années passent, et plus la vie chrétienne, pour moi, ma recherche, je pense, se purifie dans ses motivations. Je vais vous dire, en 2006, une des choses les plus importantes dans ma vie, c'est simple, au-delà de tout le reste, c'est d'être agréable à Dieu, de plaire à lui. Il est possible d'être assis ici dans cette salle et de venir à l'église le dimanche, mais je vis ma vie foncièrement dans ses motivations les plus profondes, dans ses décisions, ses actions, ses priorités, dans ce que je fais vraiment, dans ce que je dis vraiment, dans ce que je regarde vraiment, dans comment je parle. Je cherche continuellement à être agréable aux hommes, à être agréable à ma famille, à être agréable aux gens au travail, aux étudiants autour de moi à l'école, à être agréable à comment les à plaire, à être accepté par les gens à mon travail, à plaire ou à être accepté par un establishment religieux, à plaire et à être accepté par des gens. Puis il y a tellement d'énergie qui est passée, tellement des vies entières qui sont passées à chercher à plaire, et beaucoup de gens aussi, plaire à moi-même. À être agréable à moi-même, à moi en premier, l'ego en premier, moi, qu'est-ce que moi, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est le plaisir pour moi. Et tout cela est présent, est possible, tout cela habite en nous. Mais l'œuvre de l'Esprit de Dieu appelle chaque croyant à dire, Seigneur,
soit m'élever à une place où plus que jamais en 2006, c'est à toi que je vais être agréable. Je vais te plaire, que ma vie va te plaire. Que mes paroles vont te plaire, que comment je me comporte lorsqu'une épreuve arrive, que comment je me comporte lorsque j'ai des déceptions, comment je me comporte lorsque je suis déçu, lorsque je suis blessé, lorsque des pressions viennent, comment je me comporte lorsque je suis tenté, comment je me comporte. Seigneur, qui je suis, comment je suis, ce que je parle à d'autres, ce que je communique à mes enfants aux gens autour de moi, est-ce que cela te plaît à toi, Seigneur? Les choses les plus grandes qui pourraient être dites de nous. Savez-vous combien de croyants vont passer leur vie en ayant cherché à plaire à tellement de gens, et après ça, se présenter devant Dieu pour l'éternité? Je veux en 2006 avoir cette révélation que sans la foi, il est impossible de lui plaire à lui. Il y a plusieurs textes qui illustrent cela, mais je vais en prendre un seul, un dernier, pour terminer le message de ce matin. Et entamer cette série, je vais le continuer ce soir. Je veux prendre un texte dans Matthieu chapitre 21, le verset 12 à 14. Et c'est un texte que vous connaissez bien, où Jésus est entré dans le temple. Et bien sûr que le temple représente l'Église, mais représente la maison, mais représente aussi nous, nos vies, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit, ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit? Et Jésus nous donne ce modèle, nous appelle à cette foi seulement que lui peut. J'aimerais vous dire ceci d'une manière très, très douce, le plus simple possible. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il peut y avoir de la louange, il peut y avoir dans votre vie de la louange, de la prière, je viens à l'Église, je connais des versets bibliques et des choses que j'ai changées dans ma vie. Il peut y avoir un rituel d'Église, par une Église qui est là depuis 30 ans, il peut y avoir des choses qui ont été établies, il peut y avoir, et je veux même dire ceci, il peut y avoir une foule et beaucoup de monde, mais c'est la foi qui lui est agréable. C'est des gens qui, dans leur vie, mettent leur foi et leur confiance en lui. Des hommes et des femmes qui, à travers tout ce qu'ils pensent, ont les yeux sur lui puis veulent lui plaire. Des hommes et des femmes que, lorsqu'ils sont tentés, ont confiance en lui. Lorsque des choses brisent dans leur vie, ont confiance en lui pour réparer. Lorsque des tentations viennent, ont confiance en lui pour ça vaut la peine de demeurer avec lui par la puissance de son esprit. Lorsque le temps vient de bâtir, lorsque le temps vient, quel que soit ce que Dieu vous appelle à faire, Dieu appelle et cherche qu'il lui plaît par-dessus tout. Dieu regarde à la terre et nous avons tous ces concepts que, en longtemps qu'il y a une église, en longtemps qu'il y a des chants, en longtemps qu'il y a de la louange, en longtemps qu'il y a une bonne doctrine, en longtemps qu'il y a une rectitude doctrinale, en longtemps que les gens ne font pas trop de gros prêchés, Dieu est content. Dieu dit non, sans la foi, il est impossible de m'être agréable. Ce que moi je cherche, c'est des hommes et des femmes qui vivent en dépendant de moi, en ayant confiance en moi, en se confiant en moi. Dites amen n'importe quand ça vous tente. En croyant en Dieu, en mettant leur confiance en Dieu, en se réjouissant en Dieu, en parlant avec confiance en Dieu, priant avec confiance en Dieu, donnant avec confiance en Dieu, servant avec confiance en Dieu. Les hommes et les femmes. Dans le texte de Matthieu, Jésus entra dans le temple, chassa tous ceux qui vendaient, qui achetaient dans le temple, renverse les tables, et il leur dit, « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Si vous lisez le texte à la maison du chapitre 20, 21, qui précède tout le contexte autour de ce moment que nous connaissons, où Jésus est entré dans le temple, renversé les tables des vendeurs, est entré et s'est écrié, « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Si vous regardez le contexte, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont présentes parmi ses serviteurs, ses disciples, parmi son peuple, autour de lui, et qui, beaucoup de choses que pour beaucoup de croyants et d'églises et de perspectives chrétiennes en 2006, pour beaucoup de gens, passent comme étant suffisant. S'il y a ça, là, bien, on est des chrétiens, on est une église. Il y a toutes sortes de choses dans le texte. Il y a de la compassion dans le texte. Le texte nous dit, vous avez toutes les références à l'écran, les messages sont disponibles, les notes sont disponibles aussi. Il y a de la compassion. 20-34, on nous dit qu'il était ému de compassion. J'aimerais vous dire que je rends grâce au Seigneur pour toute église qui agit avec compassion, le sentiment de vouloir aider, de compassion. Combien savent que la compassion sans foi, c'est juste une émotion des gens qui disent « c'est terrible, comment est-ce que le monde souffre? » La compassion ne prend son incarnation spirituelle seulement que lorsque des hommes et des femmes de foi se lèvent et disent « j'ai confiance en Dieu, que alors que j'ai compassion de quelqu'un, je vais essayer d'aider et par la grâce de Dieu, Dieu va m'aider. » Lorsque la foi, lorsque la compassion trouve la foi, il y a une action qui prend place et là, il y a des gens qui sont touchés. Dans le texte, il y a de la compassion. Dans le texte, il y a des disciples qui désirent lui obéir. Mais Dieu cherche la foi. Il y a une ville qui est touchée par l'influence de Christ.
Je rends grâce au Seigneur que plus de 5000 personnes sont venues à notre concert, qu'il y a peut-être 2000 inconvertis qui sont venus pour les premières fois. Je rends grâce à Dieu pour toutes les fois qu'on reçoit des emails, tous les contacts, tous les gens, toutes les compagnies, tous les hôpitaux, tous les gens de la ville qui semblent être touchés par l'action de l'Église. Mais sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ce que Dieu cherche par-dessus tout, c'est des hommes et des femmes, ici, vous ce matin et moi, qui en 2006 allons aller dans la foi en Dieu comme on n'a jamais été auparavant. Il y a de la louange. La Bible nous dit que les gens chantaient « Hosanna, Hosanna au fils de David ». Parce que vous savez qu'on peut avoir, on peut réduire l'Église à une espèce de club de louange, à une espèce de club où est-ce qu'on chante entre nous, où est-ce qu'on se bénit entre nous, puis on sort puis on vient la semaine d'après. Dieu aime la louange, cherche la louange. Parce que vous avez vécu aussi, puis en bon Québécois, slaquez votre cravate une seconde, soyons honnêtes pendant une seconde. Avez-vous même vécu, as-tu déjà quelqu'un ici qui a vécu, que même pendant qu'il est en train de chanter le plus beau chant de louange, tu peux avoir la tête à 1000 kilomètres de là. Tu peux être en train de chanter, « Oh Seigneur, comme tu es grand, comme tu es fidèle, comme tu es bon, rien n'est comparable à toi », avec la tête remplie d'inquiétude, d'incrédulité, de doute, de peur, d'angoisse, en train de te ronger les ongles spirituellement pendant que tu chantes la fidélité de Dieu. Dites à quelqu'un près de vous, pas ici, là, mais ailleurs, ça arrive, ces choses-là. Dites ça à quelqu'un. Au-delà de la louange, Dieu cherche la foi d'hommes et de femmes, que leur louange est une expression de leur foi en Dieu, de leur confiance en Dieu. Parce que lorsque les musiciens quittent, when the music fades, lorsque les musiciens s'en vont, lorsque le rassemblement est terminé et que les dernières mesures sont terminées, lorsque le dernier accord a été plaqué, puis qu'on est lundi matin, mardi matin, et que toutes les ténèbres et tous les problèmes sont là, combien savent que ça prend autre chose que juste le refrain ou la ritournelle ou le frisson parce que la personne a bien chanté? Ça prend une foi, une confiance que je vais passer à travers ça et que les chants que je chante sont vérité et que Dieu est vrai, grand et puissant. Il y avait de la louange. Il y avait de la confiance. Il y avait des disciples qui désirent le servir. Mais Jésus, lui, a les yeux fixés sur le temple. Il s'en va, il y a des Hosanna, il y a une ville en émoi, il y a des gens qui répondent, il y a des disciples qui obéissent. Il y a toutes sortes de choses qui prennent place. C'est des versets qui sont lancés dans l'air, dans le texte. Les gens se mettent à lancer des versets. Tout ça, c'est bien. Mais Jésus, lui, a les yeux fixés sur le temple. Et lorsqu'il entre, tout ce qui était dans l'entrée, tout ce qui était les vendeurs du temple, il y a toujours des façons dont on peut totalement manquer le sens profond d'un texte. Lorsque j'en reçois, ça n'arrive pas souvent, je vais recevoir quelqu'un qui va me dire, « Ah, j'ai trouvé que c'était bien lorsque vous avez apporté le message sur les vendeurs du temple, parce qu'à mon église, ils ont une librairie dans l'entrée, puis ça, je sais que ce n'est pas de Dieu parce qu'ils vendent des affaires à la librairie. » Pas du tout ça, le texte. Pas du tout. Les vendeurs du temple, c'était tout un système religieux qui était là. Ils vendaient des animaux, qui s'offraient en sacrifice, ils vendaient toutes sortes de choses qui étaient devenues un rituel. La majorité des choses qu'ils vendaient là, c'était des animaux que les gens achetaient pour aller vendre en sacrifice, pour aller offrir en sacrifice, et ça remplaçait. Ces choses-là avaient été mises dans l'Ancien Testament pour simplement annoncer pour être un portrait qu'un jour Dieu enverrait l'agneau de Dieu, et des êtres humains, avec foi et confiance et passion, étaient pour louer, adorer et servir Dieu. Mais ils avaient remplacé tout cela par un rituel. Ils rentraient, faisaient de leur rituel, puis après ça, rentraient dans le temple avec des cœurs froids, avec des pensées absentes, avec des cœurs qui ne brûlaient pas de confiance et de foi en Dieu. Ça avait remplacé la révélation, la relation par le rituel. Et Jésus renverse les tables. Puis il dit, « Ma maison devrait être appelée une maison de prière. Et vous en avez fait une caverne de voleurs. » Il se tient dans le temple de Salomon. Et si vous lisez le texte dans l'Ancien Testament, il se tient à l'endroit où, lorsque le temple avait été consacré, la gloire de Dieu est descendue. Et alors que la gloire de Dieu est descendue, c'est tellement simple, c'était tellement remarquable de simplicité, toute l'intention de Dieu est révélée. Vous lirez dans l'Ancien Testament, dans les Chroniques. Lorsque la gloire est descendue, ils sont mis à prier, ils ont dit, « Seigneur, lorsque l'ennemi viendra, nous allons appeler à toi, et tu vas venir. On va appeler à toi avec foi, puis tu vas venir, puis tu vas vaincre nos ennemis. Lorsque la maladie s'abattra sur nous, nous allons appeler à toi avec foi, et tu vas venir. » Et guérir. Lorsque, Seigneur, il y aura de la sécheresse dans le pays, nous allons appeler à toi avec foi, nous allons prier, chercher ta face, et tu vas venir.
et manifester ta gloire. Lorsque nous serons sous des esclavages, lorsque je serai dans nos termes à nous, lorsque je vivrai des blessures, de l'angoisse, lorsque je vivrai des déchirements, je viendrai dans ta maison et nous appellerons à toi. Je crierai à toi avec foi et ta gloire, oh toi, grand consolateur, viendra me remplir et je trouverai de la force. Lorsque le peuple péchera, lorsque les gens seront pris par une captivité ou une tentation, nous viendrons à toi et on priera devant toi. Et alors ta gloire, ton pardon viendra. Lorsque des gens deviendront rétrogrades et s'éloigneront de la maison et iront vers des idoles, nous, ton peuple, nous viendrons, nous crierons à toi. Et ta présence viendra, et ta gloire viendra, et on viendra avec toi devant, avec foi, et ton Saint-Esprit ira les chercher et les ramènera à la maison. Jésus dit, cette maison est la manifestation de l'intention de Dieu, simplement qu'un peuple vienne. Ma maison devrait être un endroit de prière où des gens crient à moi avec foi, et où je viens répondre à leur cœur. Mais vous en avez fait une caverne de valeur, suivez-moi bien. Sans la foi, la prière, l'esprit de grâce et de supplication, en tant que leader et pasteur de l'Église, et tous les pasteurs qui sont sur la strade de l'Église et dans la salle, et tous ceux qui vont écouter ce message, si nous ne sommes pas un peuple qui est passionnément et simplement à la recherche par la foi de la présence de Dieu plus que n'importe quoi d'autre, je vole les gens de ce que l'Église est supposée être. Je leur vole le droit qu'ils ont de venir dans un lieu où la présence de Dieu est là et où je suis touché, guéri. Je vole mes enfants du droit qu'ils ont d'avoir un papa, une maman qui, par sa vie, leur inculque que la marche chrétienne, c'est que je crie à Dieu, je parle à Dieu avec confiance et foi, puis regarde tout ce que Dieu fait en moi et que ça soit un message pour toi, mon fils. Que ça, ce soit un message pour toi, ma fille, parce que le texte dit que ma maison, sans cette maison de prière, le lieu devient un lieu de rituel, devient un lieu de routine spirituelle, et vous volez les gens de ma présence et de ma gloire. Et alors qu'il dit ça, qu'il renverse les tables, des aveux et des boiteux s'approchent de lui, des aveugles et des boiteux s'approchent de lui, et il se met à les guérir, et les enfants se mettent à dire, « Hosanna, Dieu est grand, Dieu est puissant! » Le désir de Dieu pour l'Église Nouvelle Vie, au-delà de tous les programmes et ce que nous avons, le désir de Dieu dans votre vie, votre maison, votre temple, c'est qu'en 2006, cette révélation brûle dans mon cœur. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Et en 2006, je vais venir comme à aucun autre moment de ma vie et dire, Seigneur, je vais prier, je vais te chercher. Oh mon Dieu, augmente ma foi parce que je veux te plaire. Et alors que dans ta vie, dans notre vie, ensemble, dans notre vie d'Église, en 2006, prophétiquement, nous allons dans cet esprit de recherche et de supplication. Renversons les tables du rituel. Renversons les tables du statu quo et de la sclérose spirituelle. Alors, sa gloire vient. Alors, Jésus fait son entrée. Alors, ceux qui sont malades sont touchés. Alors, ceux qui ont des besoins vont être rencontrés. Et alors, une génération va grandir. Nous, je rends gloire au Seigneur pour tout ce qu'on peut faire pour équiper nos ados à défendre leur foi, et tout ce qu'on peut faire pour équiper les jeunes et les enseigner à défendre la position chrétienne et tout ça. Et c'est important, on va le faire plus que jamais en 2006. Mais au-delà de tous les arguments, il y a une des choses qui va garder mon fils et ma fille et la vôtre, et garder nos jeunes dans la maison de Dieu, c'est s'ils voient l'action divine et surnaturelle de Dieu dans ma vie et dans l'Église, avec des choses que seulement Dieu peut faire. Je veux rester avec lui parce que je sais qu'il est vivant. Quelqu'un devrait dire Amen. On va dire Amen. Terminons avec ceci. À travers le monde, pendant que les musiciens s'approchent, Dieu répand l'esprit de supplication et de grâce. Milliers de croyants sont saisis, embrasés par cette vision que, et ce soir, on va aller dans la dimension de la puissance. Sans la foi, il est impossible d'avoir sa puissance. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Et il y a toute cette... Ce que j'apporte ce matin s'inscrit dans un cœur qui est répandu à travers les nations, où des milliers répondent à l'appel de Dieu. Pasteur Joël Gerbard est assis avec nous ce matin, puis il y a quelques années, je pense 2 ans ou 3 ans, il est allé visiter ce que toute l'histoire moderne appelle la plus grande église au monde. Elle est à Séoul, en Corée. Lorsque moi, j'étais au collège biblique, de temps en temps, lorsque l'incrédulité voudrait venir commencer à faire son œuvre en moi, je peux sortir un livre de ma bibliothèque qui est mon livre qu'on a utilisé dans mon cours de collège biblique des années 80 sur l'œuvre missionnaire. C'est un livre qui date des années 50. Et dans ce livre-là, il y a un chapitre sur les les endroits du monde où les plus impénétrables, où Dieu, où c'est le plus difficile d'agir. Et une des villes en 1950 qui disait qu'elle était une des plus impénétrables et fermée avec le plus petit nombre de chrétiens, un des pays les plus difficiles à toucher avec l'Évangile selon les experts de l'époque, c'était la Corée. Et aujourd'hui, il y a, en Corée du Sud, la plus grande église au monde. Il y a, si vous pouvez essayer d'imaginer ça, le pasteur Joël était là en personne. La salle a 25 000 places, plus que le Centre Bell. Et ils ont 16 réunions le dimanche. Ça commence à 7. 16, c'est une prophétie. 7. J'allais demander les chiffres à Joël tantôt, puis j'avais compris 16. 7. 7 réunions dimanche, ça commence à 7 heures le matin. Parce que là, je vais me tenir proche pour pas dire d'autres inepties. 7 réunions, 7 heures le matin. 25 000 personnes viennent, sortent, 25 000 autres rentrent, sortent, 25 000 autres rentrent, sortent. Ils ont fait une marche de prière il y a quelques années où dans les rues de Séoul, il y avait 1 million de personnes. 1 million de chrétiens qui avaient tout un chandail bleu, ils avaient des drapeaux de prière, et puis il y avait 1 million de personnes, toute la ville, tous les journaux en ont parlé, 1 million de personnes qui marchent dans la rue et qui disent « Nous sommes chrétiens, nous aimons Jésus et nous allons maintenant prier pour notre ville. » Quelqu'un devrait dire « Amen » dans ce lieu où les gens disaient « C'est la place la plus dure, la plus impossible. » Il y a à quelques kilomètres de là, il y a tout un ministère avec des autobus qui t'amènent à l'église là-bas. Il y a des gens partout à travers le monde qui viennent parce qu'ils ont ce qu'ils appellent Prayer Mountain, une montagne de prière où des milliers de personnes viennent à travers le monde pour aller chercher la face de Dieu. Puis 24 heures par jour, il y a des gens qui prient. Pasteur Joël est allé à toutes ces réunions, à des réunions là-bas, et il était dans un hôtel qui était pas loin ou en face de la grande église. C'est une scène hallucinante, 25 000 personnes qui rentrent 7 fois dans la journée, 16 fois un jour qui viennent et qui rentrent et qui sortent. Et le dimanche soir, c'était fini avec le décalage horaire et tout ça, parce que Joël était fatigué, puis se couche. Et le lendemain matin, lundi matin. Maintenant, ici au Québec, lundi, c'est la journée de congé des pasteurs. Il n'y a rien de mal à ça. C'est un principe biblique, le sabbat, le repos, etc., etc. Mais souvent, lundi, il y a peu qui se fait pour le royaume de Dieu au Québec. Quand j'étais évangéliste, c'était très quétaine. Mais dans ce temps-là, je trouvais que c'était le fun de le faire ça. On chantait un petit chant qui disait « Quel bonheur, Jésus m'a sauvé ». Puis là, on disait « C'était un lundi que Jésus m'a sauvé, c'était un mardi ». Combien ont déjà fait ça? Vous ne voulez pas l'avouer, mais vous l'avez tout fait à un moment. Puis là, je disais, si vous avez été sauvé un lundi ou un mardi, levez-vous, pas à fin, on était tout le bout, on applaudissait. Puis à chaque fois que j'arrivais, c'était un lundi que Jésus m'a sauvé, personne ne se levait. Parce qu'il n'y avait pas grand monde à convertir les lundis parce que les pasteurs sont en train de jouer au golf. Il n'y avait pas rien qui se passe le lundi. Mais vers les 5 heures du matin, pasteur Joël a commencé à attendre des lumières, du bruit ouvert, les rideaux, et a vu que le lundi matin, 5 heures, c'est ça? À 5 heures du matin, c'est la réunion de prière. Puis il y avait la salle pleine, avec 20 000 personnes qui étaient là à 5 heures du matin pour la réunion de prière. Alors, je vous donne rendez-vous demain matin. Mon point est celui-ci. Ma maison sera appelée, ma vie doit être, mon temple doit être une maison de prière. Et en 2005, quelqu'un m'a donné un CD, un DVD, avec un message, puis il a plus de 70 ans maintenant, du pasteur fondateur de l'église Yonggi Cho, qui a apporté dans une conférence de pasteurs où il raconte les débuts de l'Église, au tout début. Il raconte ce témoignage que j'avais déjà entendu, mais il l'a raconté et il y avait tellement un esprit de simplicité, mais aussi un esprit de rappel, d'avertissement, que la seule possibilité, la seule stratégie, la seule possibilité que nous avons comme chrétiens ou comme Église en 2006 de voir quoi que ce soit prendre place, c'est d'aller dans cette démarche de foi et de recherche de Dieu, car sans la foi, la prière, la recherche de Dieu, il est impossible de lui plaire. Et il raconte que dans les débuts de l'Église, tout le système de l'époque politique et le système social étaient complètement contre eux, ils étaient persécutés, interdits d'avoir des bâtiments, quoi que ce soit. Et c'est toutes les églises, ou les quelques églises qu'il y avait dans la ville, étaient des petites églises. Et puis, lorsque tu avais 50 personnes, c'était une grande église pour eux. Et lui a vécu des moments vraiment de grâce où l'église a commencé à grandir à quelques centaines de personnes. Puis, ils avaient trouvé un local qu'ils avaient loué, ils faisaient plusieurs réunions. Et la vision leur est venue, la prophétie a été donnée, la parole prophétique a été donnée qu'on va aller construire. Puis, à travers tout un concours de circonstances miraculeux, un terrain leur a été donné. Puis, ils se sont mis à creuser le terrain. Et les dirigeants de la ville leur ont dit, on va briser votre bail, vous allez quitter ce bail-là, vous allez pouvoir construire votre propre salle. Et lorsqu'il est en route pour construire la propre salle, peut-être tout planifié d'avance, une fois que le trou est commencé à être creusé et qu'ils n'ont plus de bail, les autorités sont arrivées et ont dit, vous êtes interdits, c'est fini, le terrain-là, on le reprend, vous perdez votre terrain, vous n'avez plus d'église, vous n'avez plus rien. L'église n'a même plus de place pour se rencontrer. Et c'est à travers cela
que même les cellules ont débuté parce qu'il n'y avait même plus de sanctuaire, alors les gens se réunissaient. Le pasteur raconte spontanément, avec beaucoup de transparence, qu'il a fait une profonde dépression. Il était en dépression, il ne savait pas qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va nous arriver, quelle est la stratégie, qu'est-ce qui va se passer. Et alors qu'il était dans cet état-là de qu'est-ce qui va m'arriver, et on est fini, on a bien commencé, puis là on va être une risée, on va être une honte, qu'est-ce qui va arriver? Il y a quelqu'un de l'église, un ancien, qui l'a appelé, puis il a dit, il faut que tu fasses quelque chose. Il y a des femmes de l'église qui nous font honte, ils nous embarrassent. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des femmes qui sont dans le trou, il avait creusé le trou pour les fondations du bâtiment. Il y a des femmes qui sont dans la boîte, dans le trou, à genoux, puis ils prient pour un miracle de Dieu. Le monde passe, puis ils voient. Ils ont l'air folles, ils sont là dans le trou, puis ils réclament, ce terrain appartient à Dieu. Va faire quelque chose, il faut que tu ailles les arrêter. Elle s'est habillée, puis oh non, une autre affaire. Et puis, il est arrivé. Et lorsqu'il est arrivé sur le bord du trou, il dit, il y avait 5 femmes dans la boue, dont sa belle-mère. Tous les hommes, si vous voulez avoir une belle après-midi, dites amen pour les belles-mères. Dites amen. J'aime ma belle-mère. Et sa belle-mère avait une habitude de le réveiller à 5h30 du matin lorsqu'il ne voulait pas aller prier. Puis là, elle est dans le trou avec 4 autres femmes. Ils sont à genoux dans la boîte, puis ils prient. Puis lorsqu'il est arrivé, il a senti. C'est un choix éternel, sur le bord du trou. De regarder, c'était tellement, ça semblait humainement tellement ridicule. Peut-être que pour tout ce qui est en votre chair, ça semble ridicule que vous puissiez être changé, transformé, que vous puissiez vous lever pour vos enfants, que nous puissions croire ensemble pour le miraculeux en 2006. Peut-être que vous avez connu tellement d'échecs ou des choses ont tellement toujours été semblables, vous avez tellement connu de refus. Et lui était là sur le bord du trou, puis les femmes dans le bout en train de prier, puis il dit, j'ai senti que j'avais un choix à faire. J'avais le choix de simplement croire en Dieu. C'est ce que Jésus a dit, c'est juste, le christianisme, c'est ça. Le temple de ta vie, le temple de ta maison, le temple de l'Église, c'est une maison de prière. Des gens qui cherchent Dieu, qui crient vers Dieu, faites-en pas un endroit de rituel et de système, vous allez devenir des voleurs sans le vouloir. Vous allez voler aux gens le droit qu'ils ont de vivre des histoires et des témoignages miraculeux. Il était là sur le bord du trou, pas trop sûr, puis il raconte avec énormément de transparence. Il dit, j'aimerais ça vous dire que, avec courage et détermination, je suis descendu dans le trou. J'ai même pas eu le temps de me décider. Il dit, ma belle-mère me crie après. Dans le trou, la belle-mère a dit, qu'est-ce que t'attends? Saute dans le trou avec nous autres! Et a sauté dans le trou, s'est mis à genoux avec les madames, a fermé ses yeux. Bien sûr, dans les mois qui ont suivi, Dieu leur a redonné ce terrain-là qui était trop petit. De toute façon, ils ont bâti une église et une autre, et une autre, et une autre. Mon point est celui-ci, que celui qui a une oreille entend la voix de l'Esprit qui dit, « Qu'est-ce que tu attends? Saute dans le trou avec nous. Viens-t'en, sautons dans l'impossible ensemble et prions ensemble. Seigneur, augmente ma foi en 2006 dans le nom de Jésus. » Et ceux qui le veulent, applaudissent de tout leur cœur et disent amen. Alléluia! Comment une nouvelle vie? Levez-vous et applaudissez. Levez-vous et donnez une ovation, Seigneur. Donnez une ovation debout. Allez, remplissez ce lieu d'applaudissements et de confiance. Alléluia! 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 Si vous recevez ce message ce matin, que vous dites, Seigneur, augmente ma foi, j'aimerais que vous tendiez vos mains vers Dieu, partout à travers ce lieu. Pour vous-même, pour votre vie, votre mariage, votre couple, votre service pour Dieu, pour une guérison, pour un miracle, pour des enfants rétrogrades ou pour des choses secrètes que vous connaissez, des rêves que Dieu vous a donnés, pour une réponse, pour une direction, pour la fin d'une époque où ce que les hommes ou les gens pensent était suprême. Pour la fin d'une époque où c'est le péché qui gagne. Pour la fin d'une époque où c'est la chair qui remporte. Pour la fin d'une période de votre vie où c'est l'amertume ou la critique ou tout ce qui est de la bile à l'intérieur prend le dessus sur vous. Est-ce que je peux entendre des hommes et des femmes qui lèvent leur voix et disent, Seigneur, augmente notre foi. Seigneur, augmente notre foi. Avant qu'on chante, me voici à tes pieds. Allez-y, commence à parler à Dieu partout à travers ce lieu. En 2006, Seigneur, augmente ma voix. Je veux que le temple de ma vie soit une maison de prière. Le temple de ma maison. L'esprit de supplication et de grâce vient me remplir. Seigneur, sans la foi, je ne peux pas te plaire. Et je veux te plaire. En 2006, je vais traverser mes épreuves différemment. Je vais traverser les critiques différemment. Je vais traverser les paroles des gens sur moi différemment. En 2006, c'est une année d'établissement. C'est une année d'augmentation. C'est une année où Dieu va poser une fondation solide.
et de ce lieu émergeront comme des flammes de feu, et des chefs se rassembleront, et des flammes de feu iront embraser les gerbes de la moisson. De ce lieu, dit le Seigneur, je m'appellerai des héros, je me façonnerai des héros, et vous ne serez pas comme un autre, ou comme lui, ou comme elle, ou comme ce mouvement, ou comme ce mouvement, ou comme ce pays, ou comme ce pays, mais Église francophone du Québec, Église francophone du monde, tu seras comme Dieu veut que tu sois, comme Dieu a préparé que tu sois. Et ce matin, est-ce que je peux entendre une prière qui monte du peuple de l'Église Nouvelle Vie? Seigneur, me voici à tes pieds, et je veux te demander une touche de ta présence. Me voici à tes pieds, pour te demander une touche de ta présence. Voici à tes pieds, mon roi, me voici à tes pieds, pour te
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.